europe1.fr et l'application Europe 1. Europe 1, votre après-midi se poursuit avec tout de suite Stéphane Bern, historiquement vôtre.
Il est 15h sur Europe 1. Le flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Israël attendra une réponse du Hamas jusqu'à demain soir. Réponse à l'offre de trêve reçue hier par le groupe terroriste. Le premier ministre israélien a promis ce matin que Tsahal entrera dans Rafah avec ou sans accord de trêve. Arrêter la guerre avant d'avoir atteint tous nos objectifs est hors de question, assure Benjamin Netanyahou. Ça s'est bien passé. Les premiers mots de Rima Hassan, entendus ce matin par la police judiciaire pour apologie du terrorisme. Rima Hassan, candidate LFI aux européennes. Entendue aussi Mathilde Panot. Cette convocation atteste d'une fuite en avant sans précédent, dénonce la chef de file des députés LFI. Le collège où était scolarisé Samara n'a pas fait preuve de négligence. L'enquête administrative ouverte après son agression ne relève pas de situation de harcèlement scolaire. Samara a été violemment agressée devant son collège de Montpellier en début de mois par plusieurs élèves. Sa mère avait mis en cause le manque de réactivité de l'établissement. Faut-il suspendre l'excuse de minorité pour les jeunes qui participent à des crimes graves? C'est oui pour 75% des Français, selon un sondage CSA publié aujourd'hui pour Europe 1, CNews et le JDD. La justice sera bientôt plus sévère contre les entorses à la laïcité. Toutes les violences du quotidien, verbales et physiques, la consigne a été transmise au procureur. Agresser quelqu'un parce qu'il ne respecte pas tel ou tel principe religieux va devenir une circonstance aggravante, William Molinier.
Un homme qui violente sa femme parce qu'elle n'a pas mis son voile sera désormais poursuivi avec une circonstance aggravante, celle de violence commise en raison de l'appartenance vraie ou supposée à une religion. Éric Dupond-Moretti exige que les procureurs activent systématiquement dans ce genre de cas l'article 132-76 du code pénal. Cela permet d'augmenter la peine encourue. Jamais on n'était allé aussi loin dans l'interprétation de ce texte, souffle un magistrat. En clair, c'est aussi une façon de renforcer la protection des fidèles gênés par les franges rigoriste ou éloigné des principes de laïcité. Dans cette circulaire, le garde des Sceaux veut une réponse pénale ferme et rapide quand les infractions sont commises dans l'espace public ou aux abords d'un établissement scolaire. Les procureurs devront d'ailleurs réclamer une peine de prison ferme quand la circonstance aggravante de la religion sera retenue. Ces consignes ne s'appliquent qu'aux magistrats du parquet puisque seuls les juges du siège, c'est-à-dire ceux des tribunaux ou des cours, ont le pouvoir de condamner et de prononcer des sanctions.
William Molinier, spécialiste police-justice à Europe 1. Le roi Charles III a repris aujourd'hui ses activités publiques après une pause de 3 mois liée à son cancer. Le roi est apparu souriant mais marchant lentement. Charles III qui avait choisi symboliquement de se rendre dans un centre de lutte contre le cancer. Et puis première demi-finale aller de la Ligue des Champions ce soir avec une très belle affiche. Le Bayern de Munich reçoit le Real Madrid. Coup d'envoi de la rencontre à 21h. 15h03 sur Europe 1, historiquement vôtre, c'est maintenant.
Je suis Gaspard, roi et mage, et voici Balthazar.
15h-16h sur Europe 1.
Alors reprenez votre place à la table ronde, la vraie.
Historiquement vôtre.
A successor to the kings and queens of history.
Je n'ai jamais pu renoncer à la lumière.
Il va y avoir un bal.
Un bal
en l'honneur de son Altesse le Prince.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Comme chaque jour à 15h et pendant une heure, je vous invite à découvrir sur Europe 1 la véritable histoire d'un personnage, homme ou femme, qui a marqué l'histoire, qui l'a changé aussi, parfois en passant sous les radars. Des personnages, mais aussi des lieux où l'histoire s'est jouée ou des événements marquants et que j'ai choisi de vous raconter.
Et aujourd'hui, de 15h à 16h sur Europe 1, c'est un amateur d'art, pas tout à fait pas comme les autres, que Stéphane Bern nous fait découvrir dans son récit du jour.
Cet après-midi, je vous raconte celui qui a appliqué la devise de sa famille « Jusqu'où ne montrait-il pas ?» Et il est monté haut, jusqu'à l'excès. C'est animé par la même ambition qu'il s'est fait amateur d'art et collectionneur d'œuvres, jusqu'à l'excès. Ou la véritable histoire de Nicolas Fouquet, le surintendant collectionneur d'œuvres d'art. Quelles œuvres composaient la collection de Nicolas Fouquet? Quelles ont été les raisons de son grand collectionnisme? Où peut-on aujourd'hui admirer les œuvres que possédait le surintendant de Louis XIV? Pour répondre à ces questions et bien d'autres encore, j'ai le plaisir d'accueillir une conservatrice du patrimoine au Mobilier National en charge des collections de peinture. Bonjour Clara Thérault.
Bonjour.
Clara Thérault, quelle est selon vous l'œuvre phare de la collection de Nicolas Fouquet?
Alors, ça dépend de quel point de vue on se place. En termes de valeur numéraire, lorsque les biens sont estimés à l'arrestation du surintendant, c'est une suite de 8 tapisseries sur l'histoire de Vulcain, estimée 12 000 livres, qui va constituer l'œuvre la plus chère de sa collection. En termes de célébrité, c'est sans doute un tableau de Nicolas Poussin, aujourd'hui au Louvre, et qui s'intitule « Les Israélites recueillant la manne au désert ». Et enfin, dans l'esprit de Nicolas Fouquet lui-même, eh bien, je pense que l'œuvre phare de sa collection, c'est sa bibliothèque qu'il a réunie avec une grande passion.
Vous publiez la collection de tableaux de Nicolas Fouquet, « La construction des apparences », une coédition RMN Grand Palais et École du Louvre. On va continuer à en parler ensemble, Clara Thérault, juste après mon récit.
Europe 1,
15h-16h, historiquement vôtre.
Le récit, Stéphane Bern.
Nous sommes au printemps 1661 à Vaux-le-Vicomte. De son impressionnant jardin à la française, Nicolas Fouquet admire l'œuvre qui vient tout juste d'être achevée. Après 20 années d'intenses travaux et derrière ses admirables étendues d'eau, derrière ses haies parfaitement ciselées, son château s'offre dans toute sa splendeur. Sous un rayon de lumière, la façade de pierre blanche se dresse dans une impeccable symétrie classique. Tout autour, les jardins déroulent à perte de vue leurs suites irréprochables de parterres fleuris, de pelouses coupées au cordeau et d'arbustes alignés dans une immuable perspective. Au murmure des fontaines, le jardin déploie ses merveilles et la nature tout entière se plie aux règles du classicisme français. Entre les murs du château, les enfilades de pièces richement ornées n'ont rien à envier à cet écrin de verdure. Sur les murs, les plafonds, les sols, c'est aussi un déferlement de richesses. Peintures, sculptures, mobilier ornés se répondent en un concert des plus harmonieux. Pour ce faire, Fouquet a engagé les artistes les plus éclatants du royaume. André Lenôtre, Louis Levaux, Charles Lebrun, et ont travaillé de concert pendant de longues années avant même de réaliser Versailles. De la vieille forteresse médiévale acquise par Fouquet 20 ans plus tôt, ils en ont fait un chef-d'œuvre unique. Et pour mettre à jour ce joyau, le surintendant des finances, sous le règne de Louis XIV, n'a pas hésité à faire raser un village, abattre un bois ou encore détourner le cours d'une rivière. L'église et les hameaux de Vaux, ses vignes et ses moulins n'ont pas constitué un obstacle infranchissable pour les 900 ouvriers qui ont travaillé sans relâche au dessein de l'homme qui savait ce qu'il voulait. Et pour cause. Fouquet ne pouvait pas construire meilleur écrin pour la magnifique collection d'œuvres d'art qu'il a rassemblées. Ramenées d'Italie, la plupart de ses toiles sont nées sous la main des peintres les plus prestigieux du moment et le surintendant se complaît à les savoir bien en place dans les plus belles pièces du château. Fouquet ne s'y trompe pas, il vient de réaliser là un chef-d'œuvre du classicisme que les années ni les siècles n'oublieront, un chef-d'œuvre à faire pâlir de jalousie les plus grands du royaume et même le roi, qui s'est déplacé en personne pour admirer les prouesses de son surintendant. Au fait de sa puissance, Fouquet exulte, mais il ne se doute pas qu'il vient ici de précipiter sa chute.
Vous êtes bien sûr Europe 1 et cet après-midi, dans Historiquement Vôtre, vous l'avez compris, Stéphane Bern nous raconte Nicolas Fouquet, le surintendant collectionneur d'œuvres d'art. Et la suite, c'est dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, 15h, 16h, Historiquement Vôtre.
Vérissure, la protection adaptée à chacun.
J'aime savoir que ma fille est bien rentrée et que tout va bien à la maison.
Comme tout parent, l'alarme Vérissure vous protège contre les intrusions, les incendies et les accidents domestiques. Nos agents réagissent en quelques secondes et alertent les services d'urgence. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour commencer votre devis gratuit. Un service opéré par Vérissure, société agréée CNAPS.
Chez Poltrone Sofa, la qualité se voit, mais surtout, elle se ressent. Caressez le cuir du canapé Bormida et détendez-vous avec son relax électrique.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1180 4€.
Venez les ressentir en magasin. Poltrone sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Bonjour, je suis Laurence de Carglass. On fait quoi en cas d'impact sur son pare-brise? On appelle Carglass au 3044. Et si on a deux impacts, c'est toujours Carglass au 3044. C'est simple. Une urgence sur votre pare-brise? Allô Carglass au 3044. Et pour prendre rendez-vous rapidement chez Carglass, c'est le 3044. Et l'appel est gratuit.
Carglass répare, Carglass remplace.
Europe 1,
15h, 16h,
historiquement vôtre.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Vous êtes bien dans Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern qui, à 15h10, nous raconte sur Europe 1 Nicolas Fouquet, le surintendant des finances de Louis XIV, collectionneur de beaux tableaux, de belles collections qu'il expose dans son château de Vaux-le-Vicomte.
La demeure paisible et majestueuse de Vaux-le-Vicomte, qu'occupe désormais Nicolas Fouquet, contraste avec la bruyante maison qu'il a vue naître rue de la Verrerie, dans le centre de Paris, le 27 janvier 1615. Situé sur l'axe principal de circulation de la capitale, le foyer de la famille Fouquet résonne nuit et jour du passage des coches et des charrettes sur les pavés de l'étroite ruelle. C'est pourtant une maison cossue acquise par François Fouquet, alors proche conseiller de Richelieu. Le père de Nicolas s'est en effet hissé par de bons et loyaux services à la monarchie au rang de conseiller d'État. Mais il était surtout un ardent collectionneur qui a laissé en héritage à son fils le goût du savoir. Car un fort attrait pour la connaissance et les sciences anime Nicolas Fouquet dès son plus jeune âge. Il faut dire que ses études chez les jésuites n'ont fait qu'encourager son penchant naturel. Dès qu'il rentre du collège, le jeune écolier passe ainsi des heures à contempler les vitrines de son père, à fureter dans son cabinet de curiosité et à fouiller sa bibliothèque, qui est l'une des plus riches de la capitale. À l'école, il est donc un élève brillant, rapidement remarqué par ses maîtres. Cependant, pour se soumettre à la volonté paternelle en tant que deuxième garçon de la famille, il entre dans les ordres. À 16 ans, Fouquet reçoit donc la tonsure et devient trésorier de l'abbaye de Saint-Martin de Tours. Mais derrière les hauts murs de l'abbaye, Nicolas s'ennuie. Il n'est encore qu'un adolescent et son esprit indépendant ne s'accommode pas aux dures règles des hommes d'église. Bon, en clair, il n'a pas la vocation. Fouquet sait rapidement en convaincre l'autorité paternelle et obtient de quitter le séminaire pour s'inscrire à la Sorbonne où il étudie le droit. Une fois sa licence obtenue, il reçoit la charge de conseiller au Parlement de Metz, acheté par son père. 5 ans plus tard, il devient maître des requêtes. Il n'a que 21 ans, mais il obtient une dérogation qui lui permet d'exercer la charge avant d'avoir atteint l'âge requis. Ainsi, encore dans la fleur de l'âge, Nicolas Fouquet reçoit l'un des offices les plus prestigieux du gouvernement royal et prête serment dans les mains du chancelier de France, Pierre Séguier. Oui, celui-là même qui, 29 ans plus tard, va requérir contre lui la peine de mort. Mais pour l'heure, et à l'ombre de la figure tutélaire de Richelieu qui veille sur le clan Fouquet, l'irrésistible ascension de Nicolas se poursuit. Sa fortune s'accroît au début de l'année 1640 par son mariage avec Louise Fourchet, une jeune fille d'une bonne famille bretonne qui lui apporte en dot pas moins de 160 000 livres et un important lot de terres. Un mariage, hélas, de courte durée puisque Louise s'éteint l'année suivante sans avoir eu le temps de célébrer son 22e anniversaire. En 1644, Nicolas Fouquet s'approche quant à lui des 30 ans. Il est encore désigné comme intendant du Dauphiné, c'est-à-dire chargé d'y appliquer et de représenter la volonté royale. C'est dans cette terre mise à mal par les rigueurs de l'hiver et une fiscalité écrasante qu'il commet son premier faux pas. En octobre, en effet, l'intendant quitte Grenoble où il exerce sa charge pour rendre visite à son frère François Fouquet qui vient d'être nommé évêque à Agde dans le Midi et participer aux cérémonies qui accompagnent sa nomination. Mais en son absence, une émeute éclate dans son département. Dans les villages révoltés du Dauphiné, on s'insurge contre la fiscalité toujours plus pesante et l'on brûle les registres des taxes. Du Languedoc, où il célèbre l'intronisation de son frère aîné, Nicolas ronge le frein de son imprudence. Ses ennemis ne se font pas prier pour répandre la nouvelle de son absence qu'il dénonce comme une fuite. Une fuite dont l'écho parvient jusqu'aux oreilles du chancelier Pierre Séguier et pire, de la régente Anne d'Autriche. Avant même d'être jugé, l'imprudent est démis de ses fonctions. Mais le sort lui donne aussitôt une occasion de rachat. Alors qu'il quitte Grenoble, les épaules basses, plein de remords, Fouquet apprend qu'une émeute conduite par des femmes excédées par le prix du blé et le poids des impôts vient d'éclater à Valence. Un vent de révolte gronde et risque de se propager dans toute la région. Valence est sur sa route et Mazarin, le principal ministre de Louis XIV qui gouverne le royaume avec Anne d'Autriche, en attendant la majorité du roi, est donc loin. Fouquet comprend aussitôt qu'il doit saisir sa chance. Il se met en marche et part à la rencontre des émeutières. Dès qu'il a gagné Valence, il s'adresse directement aux révoltés. D'une voix calme et forte, il parvient à apaiser les foules et à rétablir le calme. Son sang-froid est rapidement connu de Mazarin, qui lui restitue sa charge et l'envoie même en mission, en Catalogne. En 1651, 10 ans après la mort de sa première épouse, Fouquet épouse la fille d'un riche financier, Marie-Madeleine de Castille, qui lui apporte là encore une dot importante, mais surtout un cercle précieux de relations dans la noblesse parisienne. Jusqu'où ne montera-t-il pas ? C'était la devise de la famille Fouquet, et le jeune Nicolas ne pouvait alors pas mieux s'y conformer.
Et c'est justement ce que nous allons découvrir dans la suite du récit de Stéphane Bern qui nous raconte aujourd'hui Nicolas Fouquet, le surintendant collectionneur d'œuvres d'art qui n'en a pas encore acheté. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, 15h-16h.
Historiquement vôtre.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde ? DS Automobile présente le surclassement en DS7 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux ? En ce moment, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS7 Crossback E-Tense hybride rechargeable d'occasion à partir de 390€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Hey, trop de boulot. Tu sais si on a une bonne couverture dans cette boîte ?
Ah oui, ici on a le top de la couverture, hein, en lin, en coton et même en marbre. C'est classe, mais c'est un peu froid.
Attendre des siècles une bonne couverture santé pour vos salariés, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, vos collaborateurs bénéficient d'une couverture santé adaptée à leur secteur d'activité et ses obligations et ont accès à des ateliers de prévention sur mesure. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Souscription, informations et conditions sur aesio.fr ou auprès de nos conseillers.
Europe 1, 15h-16h.
Historiquement vôtre.
Excellent après-midi à l'écoute d'Europe 1 et bienvenue dans Historiquement vôtre. Il est 15h17 et aujourd'hui, Stéphane Bern nous raconte le destin de Nicolas Fouquet. Devenu maître des requêtes puis intendant du roi Louis XIV, Fouquet poursuit son irrésistible ascension.
Il faut dire qu'il s'est tiré parti des événements. Quand la Fronde éclate, Fouquet reste fidèle à la couronne et lutte sans relâche pour servir le roi. Mais sa fidélité paye et lui vaut la charge de surintendant des finances qu'il reçoit des mains du roi désormais au pouvoir en février 1653. Il n'est pas seul toutefois à recevoir cet honneur. Pour limiter le pouvoir donné par une charge si capitale pour le fonctionnement du royaume, Louis XIV nomme 2 surintendants. Fouquet partage donc son office avec un diplomate, Abel Servien. La charge est prestigieuse mais bien délicate car le royaume engagé dans un long conflit avec l'Espagne engloutit des sommes toujours plus importantes et les caisses se vident mais jamais ne se remplissent. Heureusement, le nouveau surintendant ne manque pas d'habileté. Grâce à son sens de la négociation, Fouquet sait se faire des amis parmi les riches financiers et parvient à les convaincre de prêter de l'argent à la couronne. Devant les prêteurs, Fouquet sait montrer patte blanche. Il s'applique à dorer son image et cultive le prestige et la puissance grâce à la fortune que sa charge lui offre. Qui refuserait un prêt à celui qui possède, en plus d'une splendide demeure à Paris, un magnifique château à Saint-Mandé, rempli de meubles précieux, décorés d'étoiles et des statues les plus délicates et dont les soirées sont désormais célèbres ? En effet, le surintendant a acquis et aménagé un admirable domaine niché dans un écrin de verdure. C'est un petit coin de paradis à quelques kilomètres de la capitale où Fouquet peut se retirer sans se couper tout à fait de la cour. Là-bas, le surintendant s'établit comme un prince bâtisseur. aux deux bâtiments existants, il fait ajouter des ailes et des corps de logis et commande l'édification d'une chapelle. Peu à peu, l'ancienne bâtisse se mue en une magnifique propriété s'ouvrant sur six cours intérieures entourées d'un vaste parc planté de quelques 200 orangers. Mais la prudence est de mise pour ce domaine situé à quelques pas seulement du château de Vincennes qui abrite le roi et sa cour. Attention, les bâtiments édifiés sur le domaine de Saint-Mandé ne doivent pas atteindre plus d'un étage, de crainte d'attenter à la gloire du monarque. Dans les murs de cette basse demeure, toutefois, une luxueuse bibliothèque n'abrite pas moins de 27 000 ouvrages et la galerie qui y mène renferme 59 bustes et une impressionnante collection de tableaux fournis par les plus grands maîtres. Car en même temps qu'il est devenu surintendant, Nicolas Fouquet s'est fait collectionneur d'art et de peinture en particulier. Oui, s'il est d'abord un homme de savoir, davantage porté sur la science ou encore l'art d'utiliser les plantes que lui a transmis sa mère, Fouquet doit affirmer sa richesse et son rang, qui passe chez les grands par l'exposition de toiles des grands artistes de son temps. Ses œuvres d'apparat, c'est en Italie qu'il les lui faut trouver. Retenu à Paris par son office, il charge son frère, l'abbé Louis Fouquet, de lui dénicher à Rome les plus belles affaires. Pour aiguiller ses choix et ne pas tomber dans les pièges tendu par les innombrables faussaires qui profitent alors de l'important marché, l'abbé Fouquet se fait aider par un artiste de renom bien en place en Italie, Nicolas Poussin. En retour de son aide au surintendant, l'artiste obtient de faire pénétrer ses œuvres auprès du roi et acquiert ainsi de nouveaux clients. Fouquet veut du grand, du spectaculaire, et commande à son frère des tableaux de large dimension aux sujets historiques et antiques. Il a jeté son dévolu sur les peintres de la fin de la Renaissance italienne, les Vénitiens, Véronèse, Bellini et Tintoret, les artistes des écoles romaines, toscanes, lombardes et bolognaises comme Carracci et Barocci, dont il acquiert des scènes de tableaux religieux. Pendant 2 ans, à partir du mois de juin 1655, le frère de Fouquet s'applique à s'intégrer dans les cercles d'artistes et de collectionneurs italiens pour s'en faire des amis et négocier leurs œuvres au meilleur prix. La tâche n'est pas aisée car la ville éternelle regorge alors de collectionneurs avisés et fortunés et les œuvres d'art se vendent à des prix exorbitants. Si bien qu'après 2 mois passés dans la cité romaine, Louis Fouquet reste bredouille. « C'est l'œuvre d'un siècle que de trouver une bonne emplette à faire », se plaint-il à Nicolas. Puisque les tableaux manquent, il se tourne vers les statues moins prisées en ces temps-là. Mais il se heurte alors aux autorités vaticanes qui s'inquiètent de voir Rome déposséder peu à peu de ces œuvres que des collectionneurs disséminent dans toute l'Europe. Le Vatican a donc placé la ville sous haute surveillance aux grandes dames du frère de Fouquet, freiné dans son entreprise d'acquisition. Il faut dire que le surintendant persiste et redouble ses demandes auprès de son émissaire, car il a désormais une autre demeure à décorer, et pas des moindres.
Mais laquelle? C'est ce qu'on va découvrir dans un instant sur Europe 1 avec Stéphane Bern qui nous raconte cet après-midi Nicolas Fouquet, le surintendant collectionneur d'œuvres d'art. C'est dans Historiquement Vôtre, Historiquement Vôtre, c'est du lundi au vendredi de 15h à 16h sur Europe 1. A tout de suite.
Bonjour, c'est Elisabeth Assayag.
Europe 1, la France bouge.
À quelques semaines des Jeux d'été, comment se préparent les entreprises locales au savoir-faire français? Pour cette 6e étape de la saison avec les chambres de commerce et d'industrie, nous serons ce soir à Anglette, près de Bayonne. J'accueillerai 3 start-up locales autour d'Alain Di Crescenzo, le président de CCI France, qui endossera le rôle du coach.
La France bouge, émission spéciale depuis Anglette, dans les Pyrénées-Atlantiques, avec la CCI.
Alors, je vous donne rendez-vous ce soir, nouvel horaire pour La France bouge, 21h, 22h sur Europe 1.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr.
pensez à covoiturer.
Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite. Oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer. Oui, ça arrive.
Mon seul critère, c'était vue sur mer.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie. Avec AG2R, la mondiale, constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R, la mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre.
Et sur Europe 1, Stéphane Bern nous raconte Nicolas Fouquet, le surintendant des finances de Louis XIV et ses impressionnantes collections d'œuvres d'art. Car en devenant surintendant, Fouquet s'est aussi fait collectionneur. Passionné par la peinture italienne, il a envoyé son frère à Rome pour se procurer l'étoile, lui qui a désormais une nouvelle demeure à décorer.
Car Saint-Mandé n'est qu'un coup d'essai pour Nicolas Fouquet, toujours soucieux de son image. Comme ses prédécesseurs, l'homme est bien résolu à inscrire sa gloire et sa mémoire dans la pierre en se faisant bâtisseur. 15 ans plus tôt, alors qu'il n'était pas encore surintendant, Nicolas avait jeté son dévolu sur une terre seigneuriale de Brie et son modeste manoir qu'il avait fini par acquérir au début de l'année 1641. À l'abri des regards royaux, la seigneurie de Vaux allait devenir son terrain de jeu. En quelques années, il fait sortir de terre l'un des plus impressionnants châteaux que le royaume n'a porté jusqu'alors. Les admirables jardins, les beaux appartements de Saint-Mandé ne sont qu'une pâle esquisse de ce qu'on peut alors admirer à Vaux, comme je l'évoquais en ouverture de mon récit. Là encore, Fouquet se tourne vers l'Italie et ses grands maîtres pour orner les hauts murs des salons et les galeries interminables de son nouveau château. Mais à Rome, les collectionneurs sont toujours plus nombreux et les tableaux manquent toujours cruellement. Le chanoine poète Moncroix, que Fouquet envoie en Italie en 1661 pour succéder à son frère et lui procurer des œuvres de la vie éternelle, n'a pas moins de difficultés à y faire des affaires. Si les œuvres sont très prisées et chères, le surintendant est quant à lui réticent à débourser les sommes faramineuses demandées pour leur acquisition. Devant les exigences du commanditaire et des vendeurs, Moncroix doit ruser et trouve alors une idée. Il se présente à Rome sous un faux nom pour tenter d'intégrer l'élite de la société romaine. Fouquet aussi est prêt à tout pour parvenir à ses fins et emprunte le nom d'un collectionneur réputé en Italie pour négocier à distance avec les marchands, les artistes italiens. Il se résout aussi à commander directement des tableaux aux peintres, comme à Mignard ou Poussin. Aussi parvient-il finalement à faire venir d'Italie plusieurs cargaisons d'œuvres, statues, tableaux et mobiliers de toutes sortes lui sont expédiés par bateau jusqu'à Marseille ou Saint-Malo. Reste plus qu'ensuite à les faire transiter jusque chez lui, à Vaux. Car oui, la plupart sont destinés à Vaux et participent à ce déferlement de richesses voulu par le surintendant pour sa plus grande gloire. Et son plus grand malheur aussi. Car Fouquet, trop fier de son chef-d'œuvre, a le malheur de vouloir en faire la publicité à la cour qu'il convie à une réception spectaculaire. Ce soir du 17 août 1661, les personnalités les plus éclatantes du royaume, parmi lesquelles évidemment en premier chef le roi Louis XIV et sa mère, la reine Anne d'Autriche, déambulent dans le parc sous un concert de fontaines cascades. Rien de comparable à Vaux, contra plus tard l'un des convives. 100 jets d'eau de plus de 35 pieds de hauteur de chaque côté faisaient qu'on marchait dans une allée comme entre deux murs d'eau. Pour séduire ses invités, Fouquet n'a rien négligé. 80 tables et une trentaine de buffets ont été dressés pour l'occasion. De Saint-Mandé et de son hôtel parisien d'Emery, le surintendant a fait venir meubles et vaisselle de grand prix pour séduire ses convives. Et après un somptueux souper, Fouquet fait donner par Molière la première d'une de ses comédies. La scène a pour décor les crins de verdure ciselés par le brun et admirablement décrits par la fontaine dans ses vers. De feuillages touffus, la scène est éparée et de cent flambeaux éclairés. Et pour couronner tant de merveilles, un feu d'artifice vient clore la représentation. Déchirant la nuit, un éclatant bouquet final éclaire une dernière fois aux yeux des convives le jardin merveilleux. Abasourdis par tant de splendeur, les invités se quittent après une dernière collation accompagnée par un orchestre de près de 30 violons. Nicolas Fouquet vient de réussir son entreprise de séduction et partout, l'on s'exclame qu'on n'a jamais vu chose pareille. Louis XIV lui-même est sidéré par tant de faste et ne peut retenir son étonnement. Ce qu'il vient de voir dépasse l'entendement, et à vrai dire les limites du raisonnable aussi. Car le roi Soleil, auquel était dédiée la réception, n'a pas passé une très bonne soirée. Alors que les finances du royaume font défaut et que les maisons royales sont vides, cet insolent intendant reçoit dans la plus haute magnificence. Louis XIV se sent humilié par cet étalage de richesse et de puissance. Exaspéré, il se tourne vers sa mère. « Ah, madame, est-ce que nous ne ferons pas rendre gorge à tous ces gens-là ?» En réalité, la rancœur du roi envers Fouquet ne date pas d'hier, pas de la fête de Vaux-le-Vicomte. Depuis quelque temps déjà, Louis XIV a pris ses distances avec ce conseiller qu'il a pourtant conservé comme l'un de ses trois ministres à la mort de Mazarin quelques mois plus tôt, en mars 1661. Il surveille de près ce vaniteux qui, il l'a appris par son ennemi Colbert, a fortifié Belle-Île pour se prémunir de la foudre royale. Ainsi, alors que Fouquet s'appliquait à donner une fête pour séduire le roi, il était déjà tombé en disgrâce. Et si Louis XIV avait pris la décision deux mois plus tôt de révoquer et d'arrêter son ministre, la fête de Vaux n'a fait que précipiter et aggraver sa chute.
Et restez bien avec nous, Stéphane Bern, dans un instant, nous raconte la suite et la fin du destin de Nicolas Fouquet, le surintendant collectionneur d'œuvres d'art.
Europe 1, le journal permanent.
Mais juste avant, retour dans le présent avec le journal permanent et le rappel de l'actualité de ce mardi 30 avril. Et c'est avec vous, Émilie Dez.
Sit-in, minute de silence, les manifestations pro-Gaza se multiplient sur les campus. La police est intervenue pour déloger des militants qui bloquaient un site universitaire à Saint-Étienne. Mobilisation aussi à Sciences Po, Lyon, Grenoble ou Dijon. La ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé aujourd'hui que l'État ne coupera pas sa subvention à Sciences Po Paris, d'où est parti le mouvement, financement évalué à 75 millions d'euros. Après deux heures d'audition, Rima Hassan, entendu pour apologie du terrorisme par la police judiciaire, est sorti sourire aux lèvres. Ça s'est très bien passé, a déclaré la candidate insoumise aux européennes. Entendu aussi la chef de file des députés insoumis, Mathilde Panot, pour des propos liés à la guerre au Proche-Orient. Il n'y a pas eu de négligence du collège. C'est la conclusion de l'enquête administrative ouverte après l'agression de Samara, 13 ans, tabassée devant son collège de Montpellier. Enquête qui ne relève pas de situation de harcèlement scolaire. La mère de l'adolescente avait mis en cause le manque de réactivité du collège. Un enfant de 13 ans a été tué et 4 autres personnes blessées dans une attaque à l'épée à Londres. Parmi les blessés figurent 2 policiers. Un homme de 36 ans a été arrêté. L'attaque ne semble pas liée au terrorisme. Le Premier ministre Rishi Sunak dénonce un incident choquant. Et puis du foot avec la première demi-finale aller de la Ligue des Champions. Ce soir, le Bayern de Munich reçoit le Real Madrid à 21h.
C'était Émilie Dez sur Europe 1. Émilie Dez revient pour vous informer dès 16h, juste avant Sophie et les copains. Et dans un instant, Stéphane Bern nous raconte la suite et la fin du destin de Nicolas Fouquet, le surintendant collectionneur d'œuvres d'art. Et nous retrouverons ensuite l'invité d'Historiquement Vôtre qui a reconstitué cette collection, la conservatrice du patrimoine, Clara Thérault. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko.
Bon réveil avec Europe 1 au programme ce matin.
Bienvenue et bonjour Gérard Larcher.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Et merci de votre présence.
C'est le son qui a marqué l'actualité cette nuit. Au moins 3 explosions comme celle-ci entendues dans le centre de l'Iran.
La question de l'autorité est posée depuis si longtemps qu'il est largement temps de passer des intentions aux actes.
Les faits, c'est quoi? C'est une jeune fille qui ment, qui dit qu'elle a été agressée, qu'elle a été violentée par un enseignant, donc clairement qui lui met une cible dans le dos.
La violence, la faute à qui? Aux parents, oui, débordés ou qui laissent faire.
2 387 000 à écouter Europe 1 tous les jours. Merci, encore merci de votre fidélité. À demain matin, 7h-9h sur Europe 1.
Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Visio Confucius, tu vois ?
Toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuelle, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuelle, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
Excellent après-midi, merci d'avoir choisi Europe 1. Et sur Europe 1, Pascal Praud, c'est deux rendez-vous par jour. Oui, d'abord avec l'heure des pros de 9h à 9h30 en codiffusion avec CNews et ensuite de 11h à 13h pour vous donner la parole à vous, auditeurs d'Europe 1. Parce que oui, le plus important, c'est vous, comme le dit Pascal. Alors pour participer à Pascal Praud et vous, chaque jour du lundi au vendredi de 11h à 13h, un seul numéro, il est non surtaxé. Vous composez le 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Pascal Praud et vous, de 11h à 13h. Et notez que vendredi, Pascal Praud recevra Anthony Delon pour son roman Bastingage, paru aux éditions Fayard.
Europe 1,
15h, 16h,
historiquement vôtre.
Et étant historiquement vôtre sur Europe 1, Stéphane Bern nous raconte la suite et la fin du destin de Nicolas Fouquet avec son invité, Clara Thérault.
Dans le plus grand secret, en effet, Louis XIV a déjà préparé l'arrestation de son ministre. Sous prétexte de discuter avec les États provinciaux de Bretagne, il se rend à Nantes accompagné de ses ministres, parmi lesquels le surintendant. Et il charge D'Artagnan de l'arrestation. Le matin du 5 septembre, le roi convoque Fouquet pour un entretien ordinaire. D'Artagnan l'attend, en réalité à la sortie de la chambre du monarque. Mais ironie du sort, le mousquetaire qui surveille avec attention l'enceinte du château de Nantes ne voit pas sortir le surintendant qui est monté dans une chaise à porteurs pour se rendre à la messe. Pris par surprise, D'Artagnan est obligé de rattraper Fouquet, le retrouve toujours dans sa chaise à porteurs près de la cathédrale. Cette fois, c'est fait. La nouvelle de l'arrestation du surintendant est aussitôt portée au roi qui a déjà mis en branle un plan étudié de longue date. Il a déjà fait partir un émissaire pour mettre sous scellé les demeures de Fouquet, saisir ses papiers et ses archives. Les œuvres d'art qui constituent l'immense collection de Fouquet sont finalement saisies par les officiers de justice du roi, mais devant les œuvres transportées dans les collections royales, Louis XIV déchante rapidement. Une partie du butin a été pillée avant que ses gardes ne s'emparent du trésor et les nombreux créanciers de Fouquet réclament leur part. Aussi se voit-il contraint de racheter les œuvres pour rembourser les dettes de son prisonnier. Fouquet est finalement jugé 6 mois après son arrestation. Le roi se montre intraitable car les papiers découverts chez lui révèlent un plan élaboré par le surintendant qui avait prévu son arrestation. Et l'enquête qui a suivi a mis à jour les moyens peu honorables dont il s'était servi pour procurer de l'argent à l'État. Fouquet clame son innocence, montre qu'il n'a fait qu'imiter Mazarin dans ses pratiques et qu'il a toujours agi au service de l'État. Mais il ne parvient pas à infléchir la fureur royale. Après 3 longues années de procès, Louis XIV condamne finalement Nicolas Fouquet à la prison perpétuelle, comme pour effacer la mémoire du trop vaniteux surintendant qui avait construit le premier Versailles du grand siècle en l'ornant des plus belles œuvres.
Europe 1,
15h, 16h,
historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Nicolas Fouquet, le surintendant collectionneur d'œuvres d'art dans Historiquement vôtre sur Europe 1, Stéphane Bern reçoit Clara Thérault, conservateur du patrimoine.
Clara Thérault, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. La disgrâce de l'ambitieux surintendant des finances du roi, Nicolas Fouquet, lui a-t-elle porté préjudice dans l'histoire ? A-t-on oublié qu'il a été l'un des plus grands collectionneurs du XVIIe siècle ?
Alors, on n'a pas oublié le rapport de Fouquet avec les arts. En 1905, paraît d'ailleurs un ouvrage intitulé « Fouquet, protecteur des lettres, des arts et des sciences ». Mais plus encore, je dirais qu'on a fait un mythe de ce rapport du surintendant avec les arts. Fouquet, par exemple, découvreur des talents de Lebrun, de Levaux ou encore de Lenôtre. Saint-Mandé a disparu, mais demeure Vaux-le-Vicomte, pour finalement incarner dans les récits ce rapport passionné de Fouquet avec les arts. Vous le vicomte qui aurait finalement catalysé la jalousie de Louis XIV et qui aurait précipité la chute du surintendant. Concernant plus précisément la collection, le mythe s'est une fois encore mêlé à la réalité. Fouquet étant accusé d'avoir dilapidé la fortune de l'État, il ne pouvait dans les esprits qu'être attiré par la collection, laquelle incarnerait parfaitement son avidité. On lit ainsi que Fouquet possédait une collection absolument immense avec des biens les plus précieux, mais dans ces mêmes récits, les œuvres sont rarement mentionnées et pour cause, si Fouquet avait une très belle collection, celle-ci n'était pas à la mesure d'autres contemporains comme Mazarin par exemple. Je dirais donc, pour répondre à votre question, que Fouquet n'a pas été oublié en tant que collectionneur, mais que la nature de son collectionnisme, en raison des mythes attachés au personnage, a été déformée.
Clara Thérault, vous êtes l'auteur du livre « La collection de tableaux de Nicolas Fouquet, la construction des apparences », votre mémoire qui a reçu en 2015 le prix de l'association de l'École du Louvre et qui est aujourd'hui publiée. Vous avez reconstitué la collection d'œuvres d'art du surintendant. Comment vous avez procédé ?
On avait beaucoup écrit sur Nicolas Fouquet, mais finalement assez peu sur sa collection. Quelques tentatives de reconstitution avaient pu être conduites, mais jamais de façon exhaustive. Alors d'ordinaire, quand on travaille sur les collections, le document essentiel, c'est l'inventaire après décès, qui permet d'offrir un panorama relativement exhaustif de ce que possède le défunt à sa mort. Faute d'une telle pièce d'archives pour Fouquet, qui est mort à Pignerolles après la dispersion de ses biens, il a fallu réunir des informations autrement et sur les quatre temps qui composent la collection. Le temps de la formation, principalement documenté, vous l'avez dit, par les lettres de Louis Fouquet qu'il adresse à son frère à Rome, où il est missionné pour acquérir des œuvres d'art. Le temps de l'arrestation, lors duquel les inventaires des biens sont dressés, mais ceux-ci ne sont parfois, hélas, fragmentaires et pas toujours conservés. Il manque ainsi l'inventaire général des biens de Saint-Mandé qui aurait été extrêmement précieux. Le temps ensuite de la dispersion à travers les ventes des biens du surintendant, surtout documenté d'ailleurs à travers les achats conduits par le roi. Et enfin, le temps de l'après-Fouquet, en exploitant les inventaires après décès des membres de sa famille et des catalogues de vente plus tardifs dans lesquels on trouve encore des mentions.
Ah oui, comme des quoi, biens, des biens qui
auraient appartenu à Nicolas Fouquet.
C'est conditionnel ou on n'est jamais sûr donc,
on n'est jamais sûr parce que la provenance Fouquet a pu parfois servir le vendeur pour faire monter la cote, si je puis dire, de l'œuvre qu'il possédait. D'ailleurs, aux archives s'ajoutent des œuvres qui parfois ne sont pas toujours documentées dans les pièces, mais qui présentent des rapports évidents avec le surintendant. Je pense par exemple au portrait de Lebrun, qui représente Fouquet et qui a Vaux-le-Vicomte, ou encore à un tableau du même artiste qui représente le sommeil de l'enfant Jésus et qui associe dans la scène, de façon très surprenante, un écureuil qui est le symbole du surintendant.
Okay, évidemment. Dans cet ouvrage, vous faites un état des lieux de la collection de Fouquet. Il y a bien sûr de nombreux tableaux, mais pas seulement, pas uniquement. Quel type d'œuvre d'art contient-elle également ?
Alors, vous l'avez très bien dit, il y a effectivement des tableaux, mais pas uniquement. Alors, c'est tout l'enjeu de la collection, car moi, quand j'ai débuté mes recherches, et en tant qu'historienne de l'art spécialisée dans la peinture, j'ai voulu en premier lieu reconstituer la collection de tableaux, avant de prendre conscience qu'un tel ensemble n'existait pas en tant que collection autonome. Fouquet acquérait en effet de façon beaucoup plus large des œuvres d'art, et il possédait, outre une centaine de tableaux, environ 250 sculptures et autant de tapisseries. On peut également, ça me semblait pertinent, questionner la valeur que Fouquet portait à cet ensemble. Avait-il réuni des œuvres avec la démarche d'un collectionneur ou pour le décor de ses maisons ? Vaux constituait-il l'écrin de sa collection ou la collection devait-elle mettre en valeur Vaux-le-Vicomte ? Toute la difficulté a été de s'interroger sur le sens que revêtait une collection au XVIIe siècle en général et pour Fouquet en particulier. Je dirais qu'aujourd'hui, avec le recul de mes recherches, Fouquet a été un magistral maître d'ouvrage. Il a été il a exercé un très grand patronage artistique, mais il n'était pas un grand collectionneur d'art en tant que tel.
Nicolas Fouquet était quand même un collectionneur de livres, parce que sa bibliothèque est l'une des plus riches de l'époque, dont il avait hérité en partie de celle de son père. Mais quel type d'ouvrage composait cette bibliothèque ? Vous avez parlé des sciences aussi, peut-être qu'il s'intéressait aux sciences.
Tout à fait. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui a été dite à propos de Fouquet par l'un des commissaires du roi après l'arrestation, au moment où il visite Saint-Mandé. Il dit que Fouquet est un omnium curiositatum explorateur, c'est-à-dire un explorateur de toutes les curiosités. Et en effet, la bibliothèque de Saint-Mandé, avec ses 27 000 volumes, ce qui est absolument colossal, révèle pleinement cet esprit humaniste, encyclopédique, avec des ouvrages qui touchent à tous les domaines et à tous les savoirs. Il y avait des volumes de médecine, de théologie, de littérature, d'histoire antique et moderne, de philosophie, de géographie, de mathématiques, etc., etc. Contrairement aux arts, Fouquet était un bibliophile passionné et averti. Il s'est d'ailleurs personnellement investi dans la constitution de sa bibliothèque. Il achète des ensembles à très grand prix, alors que parfois les acquisitions d'œuvres d'art obéissent à davantage de raisons. Il les hiérarchise et preuve que sa démarche n'est pas alimentée par le paraître. Il se soucie peu de la qualité des reliures, qui sont souvent en veau, alors que les reliures les plus précieuses peuvent être en maroquin ou en velin. Ce goût pour la bibliophilie est véritablement un goût personnel, et vous l'avez dit, un goût qu'il hérite de son père, qui possédait lui aussi, avec 15 000 ouvrages, l'une des plus grandes bibliothèques de Paris, et aussi un goût hérité de son éducation au collège jésuite de Clermont.
Mais un mot quand même, Claire Hétéro, sur les goûts artistiques de cette époque, et peut-être voir de quelle manière la collection de Fouquet la reflétait les goûts artistiques de l'époque. C'était plutôt la peinture italienne qu'on aimait dans cette deuxième partie du XVIIe siècle.
Oui, alors, autant la bibliothèque de Nicolas Fouquet révèle pleinement les goûts de l'homme, autant sa collection d'œuvres d'art révèle pleinement le goût du siècle. Fouquet n'est pas un grand connaisseur d'art, et on le voit d'ailleurs dans la correspondance qu'il entretient avec son frère Louis lorsqu'il l'envoie à Rome pour acheter des œuvres. Il le guide très peu dans sa recherche et lui demande tout au plus de privilégier des tableaux bons et originaux de grands peintres morts, et pour la sculpture, de privilégier l'antique. Pour le reste, Fouquet s'en remet pleinement à Louis, qui lui-même, il le dit lui-même, n'est pas un grand connaisseur et va chercher les conseils de Nicolas Poussin pour acquérir ce qui se fait alors de mieux et de plus à la mode. En sculpture, nous avons dit qu'il s'agissait de l'antique, et pour les peintures, en effet, les choix se tournent vers des peintres italiens de la seconde Renaissance ou du début du XVIIe siècle. Plutôt des peintres qui, d'ailleurs, enfin non, plutôt des compositions qui d'ailleurs s'orientent vers des sujets d'histoire, la peinture, de la peinture mythologique ou religieuse. Pour les peintres français, Fouquet va choisir des valeurs sûres, c'est-à-dire Lebrun et Poussin. Il en résulte donc un ensemble de tableaux qui est certes prestigieux par les grands noms qui le composent, mais qui n'est pas du tout audacieux au regard du goût en vogue. Et on a souvent d'ailleurs trop distingué Fouquet en tant qu'original, et c'est la même dynamique qui préside au chantier de Vaux. Fouquet va privilégier des artistes qui sont déjà reconnus. Lebrun, par exemple, a déjà travaillé pour sa très bonne amie, Madame Duplessis-Bellière. Il a également travaillé pour Séguier ou pour d'autres financiers, comme le banquier Yabar. Levaux avait à son actif de nombreux hôtels parisiens. Il avait aussi travaillé pour Abel Servien à Meudon. Et le nôtre, quant à lui, il n'est pas moins que contrôleur général des bâtiments et des jardins du roi. Et il avait également déjà travaillé pour Gaston, frère de Louis XIII.
Clara Thérault, dans votre livre « La collection de tableaux de Nicolas Fouquet, la construction des apparences », vous écrivez que les acquisitions de Nicolas Fouquet répondent à un devoir de richesse lié à sa charge de surintendant des finances. C'est-à-dire que pour inspirer la confiance auprès des prêteurs, il fallait pouvoir montrer qu'on avait du ressort, c'est ça ?
C'est exactement ça. L'inventaire, après l'essai dressé à la mort de sa première épouse, Louise Fourché, en 1943, prouve qu'à cette date, Fouquet ne possède absolument aucune œuvre d'art. Les beaux-arts ne l'intéressent qu'à partir du moment où débute sa fulgurante ascension, c'est-à-dire après la Fronde, et plus précisément encore quand il devient surintendant des finances en 1653. Comme vous l'avez dit, cela tient à un devoir de richesse lié à sa charge, dans un contexte où la monarchie, sans cesse menacée de banqueroute, doit trouver les fonds nécessaires à la bonne marche du royaume auprès de financiers. Sauf que les financiers ne veulent pas prêter à une royauté impécunieuse et, par une déformation de ses fonctions, c'est le surintendant qui va jouer le rôle d'intermédiaire. C'est-à-dire que c'est à lui que les financiers vont prêter les sommes nécessaires et c'est le surintendant qui, en retour, va prêter ses fonds à la monarchie.
En prenant sa part au passage.
Alors, nous sommes en effet dans un système où les finances personnelles de Fouquet se mêlent, en effet le crédit de Fouquet se mêle, comme vous le dites très bien, à celui de la monarchie. Mais ce qui est important, c'est que pour que Fouquet s'assure de la confiance des prêteurs, il doit se parer de tous les signes extérieurs de richesse, et vous l'avez très bien dit lors de votre récit. Et c'est pour prouver cette solvabilité qu'il va aussi construire de somptueuses maisons et acquérir un mobilier et une collection réputée. D'ailleurs, il le dira pendant son procès, les dépenses de l'État n'eussent pu être faites, ni les deniers fournis à temps, si l'apparence de mon bien la dépense, l'éclat ne m'en eussent donné le crédit.
Mais donc, le collectionniste de Nicolas Fouquet n'est pas celui d'un homme qui est passionné par les beaux-arts, mais plutôt d'un homme en quête de légitimité sociale, en fait. Mais c'est peut-être le cas des grands personnages de cette époque.
Tout à fait. Fouquet ne peut de surcroît, à la différence de ses prédécesseurs, s'inscrire dans une réelle généalogie politique. Saint-Simon l'a d'ailleurs souligné avec son fiel habituel. Il est de naissance plébéienne et sa famille n'a été que récemment anoblie. Quand il devient surintendant des finances, Fouquet se trouve catapulté dans les plus hautes sphères de l'État et va, par conséquent, tout mettre en œuvre pour adopter les codes et les usages de ceux qu'il va fréquenter. Alors, comme tout grand ministre, il va marquer sa réussite par l'acquisition d'un domaine dans la périphérie parisienne, comme l'a fait René de Longueuil à Maison Lafitte, Abel Servien à Meudon et comme le fera plus tard d'ailleurs Colbert à Sceaux. L'acquisition d'œuvres d'art répond donc à un enjeu semblable, puisqu'il appartient à un grand prince, pour citer un contemporain de Fouquet, de manifester qu'il aime les arts et de faire toutes sortes d'ouvrages.
Est-ce que de temps en temps, je ne sais pas, Nicolas Fouquet faisait un cadeau d'une œuvre d'art, il faisait des dons ou...
Oui, tout à fait, puisque Nicolas Fouquet, en cela, imite une pratique que Mazarin avait lui-même beaucoup développée, utiliser des œuvres d'art à des fins courtisanes, diplomatiques, pour favoriser le rapprochement ou la protection des puissants. C'est dans ce but qu'il va acquérir pour Mazarin une très prestigieuse collection, celle du banquier allemand Everhard Jabar. Et c'est dans le même but que lorsque Maucroix part à Rome, il va lui demander d'acquérir des œuvres d'art pour faire des petits présents de temps en temps au roi et aux reines.
Alors on le sait, la disgrâce de Fouquet va disperser ses œuvres. Mais Clara Thérault, où se trouvent-elles aujourd'hui les principales œuvres de la collection Fouquet ? Certaines ont été perdues, j'imagine, mais d'autres, vous les avez retrouvées ?
Alors, il faut revenir à la dispersion des biens du surintendant pour bien comprendre le sort des œuvres. En 1664, la sentence du procès va exiger la saisie en faveur de la couronne de tous les biens de Nicolas Fouquet. Fouquet, vivait à crédit, il était alors couvert de dettes et face aux pressions des financiers qui veulent récupérer leur liquidité, Louis XIV va être contraint de céder et d'organiser la vente des biens du surintendant. Certains biens vont demeurer toutefois dans la famille, essentiellement des biens considérés comme immeubles, c'est-à-dire qui ne peuvent être déplacés, des tableaux, par exemple, encastrés dans des boiseries ou encore les sculptures les plus imposantes. Mais pour le reste, meubles, livres, œuvres d'art, argenterie sont dispersés entre une multitude d'acquéreurs et l'on en perd souvent la trace. Ironie du sort, on doit finalement aux acquisitions de Louis XIV la survivance des pièces majeures de la collection, puisque des collections royales, celles-ci sont ensuite passées aux collections nationales. Le jeune Louis XIV, qui d'ailleurs était encouragé par Colbert à s'intéresser aux œuvres d'art, va ainsi acquérir les plus belles peintures de Fouquet, de Véronèse par exemple, qui sont aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Rennes et de Lyon, qui représentent respectivement David et Bethsabée et Persée et Andromède, de Poussin, une sainte famille dite en largeur, et les Israélites recueillant la manne au désert, qui sont deux chefs-d'œuvre de l'artiste aujourd'hui au Louvre. Mais le roi va également acquérir de façon plus large des tableaux de Bassano, de Jules Romain, l'illustre élève de Raphaël, de Bruegel ou de Lambert Sustris. Le roi va encore acquérir nombre d'œuvres d'art et notamment beaucoup de tapisseries qui, pour certaines, sont encore conservées au mobilier national, qui hérite finalement du garde-meuble royal. Concernant les sculptures, l'un des plus importants achats conduits par Louis XIV est celui de 11 thermes, qui avait été exécuté d'après le dessin de Poussin, et que Louis XIV acquiert assez tard, en 1683, auprès de la famille de Nicolas Fouquet, et ces thermes sont aujourd'hui présentés dans les jardins de Versailles.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, Clara Thérault, la collection de Nicolas Fouquet se rassemble à Vaux-le-Vicomte, où ça paraît tout à fait incongru?
On ne pourra jamais restituer précisément la collection de Nicolas Fouquet dans son lieu d'origine. Des œuvres, vous l'avez dit, ont disparu, d'autres n'ont pas été identifiées ou sont dans des musées, parfois à l'autre bout du monde. Le château, par ailleurs, tout en étant très attaché à l'histoire de Fouquet, doit prendre en compte l'histoire de Fouquet après Fouquet et celle de ses propriétaires successifs, les Villars, les Choiseul-Pralin, les Sommiers-Vauguyers. Et finalement, Fouquet n'a occupé le château de Levaux que quelques mois sur une histoire de presque 4 siècles. Alors, j'ai néanmoins une chance, celle de travailler au Mobilier National qui hérite de la collection de tapisseries de Louis XIV. Et parmi elles, nous avons encore 2 tentures qui appartenaient à Fouquet et que le roi avait acquis après son arrestation. Les Actes des Apôtres et l'histoire de Vulcain. Cette dernière tenture, je vous le disais en introduction, était la pièce la plus chère des collections de Nicolas Fouquet. Elle se trouvait de surcroît dans la chambre des Muses, la chambre d'apparat du surintendant, l'une des pièces les plus merveilleuses du château. Elle bénéficiait d'un tel succès à l'époque qu'elle avait été décrite par La Fontaine dans Le Songe de Vaux. Alors nous œuvrons actuellement avec les propriétaires de Vaux-le-Vicomte pour présenter ces pièces de tapisserie dans leur lieu d'origine, et ainsi retrouver pour quelques mois un état de la pièce plus proche qu'il l'a été depuis 350 ans de ce que Fouquet a imaginé et de ce que Louis XIV a pu admirer.
C'est ce qu'a fait déjà le Mobilier National en remettant dans les décors d'un certain nombre de châteaux en France le mobilier dont
exactement
il avait la charge.
La difficulté étant qu'il s'agit ici d'un musée
ou d'un château privé. Absolument, ce qui est plus facile dans un musée national. Merci beaucoup, Clara Thérault.
Merci à vous.
De nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vaux et pour retracer la véritable histoire de Nicolas Fouquet, le surintendant collectionneur d'œuvres d'art. Je rappelle que votre ouvrage, La collection de tableaux de Nicolas Fouquet, La construction des apparences, paraît demain, une coédition RMN Grand Palais et École du Louvre. Je rappelle votre ouvrage, La collection de tableaux de Nicolas Fouquet, La construction des apparences, une coédition RMN Grand Palais et École du Louvre.
Et avec Stéphane Bern, l'histoire continue demain sur Europe 1.
Demain, à l'occasion des 30 ans de sa disparition, je vous raconte Ayrton Senna, le champion qui a trop vite quitté la piste. D'ici là, bon après-midi sur Europe 1.
Et oui, après-midi que vous allez passer, comme tous les jours du lundi au vendredi, avec Sophie Davant, 16h-18h. Sophie et les copains, ils sont prêts pour vous faire jouer et peut-être gagner. Oui, il y a du bruit, il y a de l'ambiance. 1200 euros.
Comment ça va ?
Bonjour Sophie.
Bonjour Géraldine. Alors, figurez-vous, je viens de tremper mon oreillette dans l'eau. C'est original. Donc, je vous entends à peine.
Ok. 1200 euros à gagner, Sophie.
Exactement. Et autour de la table, Jo Hume et Nora Malagré et Roland Pérez. C'est pour ça qu'il y a de l'ambiance ici.
A tout de suite.
À tout de suite.
Europe 1.
En 2024, les enjeux pour l'économie du sport en France sont nombreux. Comment cette année sportive servira-t-elle de vitrine aux entreprises tricolores ? Réponse ce soir dès 21h sur Europe 1 dans La France Bouge, présentée par Elisabeth Assayag, avec Alain Di Crescenzo, le président de CCI France, en partenariat avec la CCI Bayonne Pays Basque.
Chez Poltrone Sofa, la qualité se voit, mais surtout, elle se ressent. Caressez le cuir du canapé Bormida et détendez-vous avec son relax